vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 160, l'Aubenas, l'Hiverneau, sacré cuistot au fourneau. Chers amis, bonjour. Alors, c'est notre retour après les vacances. Alors, on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère, ni pédaler dans la semoule. Personne ne sera le dindon de la farce et on va mettre du beurre dans nos épinards. Et on va parler de grande bouffe. Alors bien sûr, on a tous la nostalgie du film de Marco Ferreri, une satire absolument géniale qui a déjà un demi-siècle, mais qui aujourd'hui, en 2026, est toujours un hymne au plaisir de manger. Sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sophistiqué. Disons qu'on a peur des scandales. Alors, pour magnifier les délicatesses de la bouche, nous avons des titres très amusants. Artiste gastronome pour cuisine émotionnelle. Bon, alors je répète. Artiste gastronome pour cuisine émotionnelle. Yo, passe-moi le sel maintenant, vos sèches-tu, un artiste de la pouffe. Ça ne doit pas être les tartes flambées, la choucroute et les bretzels. Non! C'est beaucoup plus sophistiqué. Eh bien, chers auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg, vous êtes peut-être en train de passer à table et de prendre votre rond de serviette. Écoutez bien, notre invitée aujourd'hui est une vraie artiste. Elle ne peint pas, elle ne dessine pas, elle ne chante pas, elle ne déclame pas, mais elle boit et elle bouffe. L'artiste gastronome L'Aubenas, l'Hiverneau. Bonjour L'Aubenas, l'Hiverneau.
Bonjour Ambroise.
Alors donc, votre carte de visite, j'ai lu votre carte de visite, vous êtes artiste, bon, ça c'est merveilleux, mais est-ce que vous vous sentez comme une camarade culturelle avec les comédiens, les chanteurs, les peintres?
Tout à fait.
Ah oui?
Oui, tout à fait. Je me sens dans cette lignée de créativité en tout cas.
Alors, précisément, quelles sont vos activités artistiques culinaires?
En fait, je crée des recettes déjà à la base en essayant de faire une fusion de différents pays avec des épices, toutes sortes d'éléments. Et aussi, je pose des mots sur les assiettes et c'est en quoi c'est une œuvre artistique parce que chaque assiette inspire un petit poème. Et j'estime que les choses vont très bien ensemble.
Donc on mange en écoutant de la poésie.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça. Mais alors, quelque part, vous dites que vous êtes une artiste libre. J'ai lu ça dans votre... un artiste, par définition, c'est quelqu'un de libre. Vous dites... vous prenez la liberté de réinventer des recettes.
Oui, tout c'est à ça. Fait. En fait, je réinterprète des recettes classiques, comme beaucoup font aujourd'hui, sauf que moi, j'y mêle un certain nombre de cultures. On a l'Orient, on a l'Asie, on a la cuisine classique française, gastronomique, de l'école Escoffier, et puis la cuisine japonaise, bien sûr, que j'ai appris.
Alors, la liberté de penser, die Gedanken sind frei, comme le chante Roger Siffert à Strasbourg. Et donc, vous avez pris la liberté d'interpréter une cuisine différente. Alors, donc là, vous venez de dire japonaise, mais donc on mange japonais, parce que après, on va raconter un petit peu votre restaurant qui est très, très spécial, mais dont on ne fera pas la promotion. Mais vous faites de l'interprétation super internationale, ou alors vous interprétez aussi les recettes alsaciennes?
En fait, je réinterprète toutes les recettes. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est-à-dire que j'ai réinterprété la choucroute au poisson, qui est très alsacienne.
Ben oui, à la Kamerzell.
Tout à fait, et ça a été une des choucroutes que j'ai découvertes en arrivant en Alsace.
Avec M. Baumann.
Tout à fait, et ça m'a tellement plu que je me suis dit, il y a des interprétations japonaises, il y a le poisson, il y a les sauces, il y a le vin... Et puis, il y a tous ces condiments et ces légumes. Et donc, j'en ai fait une recette franco-japonaise, je dirais plutôt alsaco-japonaise.
Comment peut-on être japonais? Enfin, plutôt, on est japonais sans le savoir, en Alsace.
Oui,
alors donnez-nous des détails, parce que nos auditeurs de Radio Judaïka, là, comme il est presque midi, ils sont tous en train de faire de la cuisine. En quoi le poisson sur la choucroute est différent chez vous?
En fait, il n'est pas différent. Je le réutilise avec des algues. Je le réinterprète. La cuisson est différente parce qu'on ne cuit pas beaucoup les choses au Japon.
Et donc il est presque cru
Saisi. Je dirais qu'il est saisi. Oui. Voilà. Et comme c'est un poisson de très grande qualité, de toute façon, il n'y a pas à avoir peur. Ensuite, au lieu de faire la choucroute basique, j'ai utilisé ce qu'on appelle le daikon, qui est une sorte de navet et qui est très utilisé maintenant dans toute la gastronomie. Et en fait, au lieu de mettre du vin, eh bien, j'ai mis du saké.
Déjà
pas mal.
Et alors, le poisson japonais, on arrive à l'acheter à Strasbourg ou alors il arrive en boîte ou congelé
japonais,
chez Fanus?
Non, le poisson japonais, non. Le poisson, il est français de toute façon.
Ah bon?
Et on essaie quand même de travailler avec des produits locaux au maximum.
Avec une truite, vous faites du poisson japonais?
Non, oui, bon, on peut faire des sushimaki à la truite déjà. Voilà,
ah oui.
Par exemple.
Non, mais alors, on reste dans la choucroute, là.
Oui, non, alors, la truite, pourquoi pas, oui, bien sûr, oui. On peut l'utiliser dans les recettes japonaises, et très souvent, je l'utilise.
Ah oui?
Oui, tout à fait.
Ah, non.
Pour faire des sushimaki, bon, je ne nommerai pas la personne qui fournit les truites, pas besoin de faire de la pub, mais oui.
Ah oui, il faut un fournisseur, il faut
tout
jouer,
à
c'est
fait.
Compliqué. Oui,
oui.
Oui, c'est ça, les bons restaurateurs, c'est avant tout ceux qui savent faire le marché pour acheter les bons légumes.
Absolument.
Et les bons fruits, les bons poissons.
Exactement.
Voilà. Et donc, voilà. Donc, alors, là, on a parlé du Japon, mais vous interprétez d'autres pays aussi.
Oui, j'interprète aussi les recettes, entre autres, nord-africaines, que je connais très bien.
Mm-hmm.
Je réinvente...
Alors, vous faites un couscous alsacien.
Justement, je travaille sur un couscous japonais, plutôt, qui va être extrêmement compliqué, parce qu'il y a un artiste peintre et photographe japonais qui, un jour, m'a dit « Écoute, Lomna, est-ce que tu serais capable de faire ça ?» Alors, je lui ai dit « Écoute, je vais essayer. » C'est assez compliqué, mais il faut avoir de l'imagination, je pense que...
Alors, vous avez de l'imagination, mais alors il vous faut aussi des gens qui mangent. Parce que vous, moi, quand je cuisine, je trouve toujours que c'est génialement bon. Et après, ma fille et tout, elle me dit non. Ben, alors, je vais vous dire, hier soir, j'ai fait revenir de la rhubarbe avec des blancs de poulet, du poireau, des choses comme ça, un peu de crème et tout. Et donc, ça faisait... mes invités ont... délicatement enlevé la rhubarbe. Ils ont trouvé que le poulet était bon. Et voilà. Et donc, j'étais très déçu, alors que moi, j'avais trouvé ça génial. Donc, comment vous faites pour que quelqu'un apprécie votre imagination débordante?
Alors, il faut savoir une chose, c'est quand on se lance dans la créativité, au niveau culinaire, j'entends, il y a quand même des règles à observer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mélanger comme ça et jeter ça dans l'assiette et dire « voilà, c'est moi qui l'ai créé, mangez-le ». Non,
oui,
il faut respecter.
Ça, on peut le faire avec un roman.
Voilà, on peut éventuellement un roman ou même
une toile.
Voilà, exactement,
voilà.
On est sur la même longueur d'onde. Donc, en cuisine, il faut respecter la cuisson des aliments. Et il est évident que la rhubarbe aurait très bien accompagné ce poulet s'il n'avait pas été mélangé comme ça, crémé tout de suite... Et faire un fatatras de choses dans une même assiette. Mais pardon.
Je suis un cuisinier fatatrac. D'accord.
Donc, il faut mettre en valeur les aliments. Effectivement, il y a un procédé à suivre.
Oui. D'accord. Alors, vous êtes chef avec deux F-E.
Oui, hein, tout à fait.
C'est ça. Donc, mais votre restaurant, c'est chez vous?
Oui, c'est une table d'hôtes.
Voilà.
Il y en a quelques-unes quand même en Alsace.
Hein. Oui.
Voilà, oui.
Oui.
Et j'ai tenu à créer une table d'hôtes. J'ai travaillé avant dans des restaurants et je me plais à travailler pour moi de la manière qui me convient parce que justement, je peux introduire une dimension artistique supplémentaire autour de cette table.
D'accord. Alors donc, les clients, ils viennent, ils sont un petit peu... Alors, parce que vous n'avez pas une carte avec un menu, vous, ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Enfin, ils savent peut-être ce qu'ils ne vont pas manger s'ils vous disent, je ne sais plus quoi, là, les allergiques, je ne mange pas de machin, je ne mange pas de truc, le gluten, le machin, enfin...
Je suis
végétarien, végétalien, ma copine, elle est machin et tout, donc... c'est une catastrophe, ça, pour un restaurateur,
oui.
Non ?
Alors, c'est très difficile, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que tenir compte des allergies alimentaires des uns et des autres et des intolérances. Alors, je leur propose un menu en tenant compte de tout ça. Je fais de mon mieux. Je ne dis pas, je ne fais pas de miracle. Hein. Et effectivement, je compose un menu avec 7 temps. Donc, il y a 7
plats.
Il y a 7 plats.
Ah, c'est comme à l'alligator.
Ah.
Pour ne pas prononcer le nom de ce restaurant mythique. Oui, c'est ça.
Voilà, donc il y a 7 plats avec des accords mets, vins, ou exclusivement saké, puisque je suis spécialisée donc, dans le service oui. Des accords de saké.
Alors, il faut venir à pied chez vous
Oui.
On ne repart pas en voiture
On fait attention, parce que je ne sers pas des grandes quantités d'alcool. Il faut le savoir que c'est pour accompagner le plat, donc il ne s'agit pas de finir la bouteille. Il y a un verre avec à moitié de verre, je dirais, parce qu'on ne peut pas tout boire non plus, il faut être raisonnable.
D'accord. Alors, quels sont les plats préférés? Alors, double question. Quels sont vos plats préférés que vous mangez et puis, quels sont les plats préférés de votre public, de vos... Alors, je dis public, hein, puisque vous êtes une artiste, mais enfin, prosaïquement, vos clients.
Alors, mon plat préféré, je suis tombée dedans il y a 35 ans.
Avec Astérix.
Exactement. J'ai découvert le foie gras, j'adore le foie gras. J'adore réinterpréter le foie gras.
Il faut inviter Jeanne Barseguian, là, maintenant, elle a du temps.
Ah ben non.
Oh.
J'adore le foie gras, oui. Donc c'est vrai que mes hôtes aiment beaucoup la façon dont je fais le foie gras, puisqu'il est mariné de différentes façons et accompagné
toujours. Vous câlinez les oies, elles ne sont pas gavées, elles sont gentilles.
Ce ne sont pas des oies, mais du canard.
C'est
du canard,
ah bon.
Voilà.
D'accord.
Donc, ils aiment beaucoup ça et ils aiment toutes mes interprétations autour du tofu, puisque je suis maître tofu et que je fais beaucoup de préparations à base de tofu.
On peut être maître tofu.
Tout à fait.
Avec un M majuscule. Enfin, donc, non,
oui.
Mais c'est un grade.
C'est comme un grade. Comme maître tofu, comme maître fromager, comme
le pharmacien Homais qui a. qui a la croix d'honneur, voilà.
Okay. Bah,
alors, je vais vous épater, moi je suis chevalier Tastevin des Hospices de Beaune.
Ah oui.
Ah oui, c'est bien.
Oui, ça je connais bien.
Alors,
oui.
J'ai pas fait exprès parce que je connaissais pas du tout le vin et tout, mais c'est parce que comme j'étais à l'époque journaliste à FR3 à Dijon, Bourgogne, et que, voilà.
Oui.
Et alors, c'était en plus avec Lino Ventura, Jane Birkin et Henri Vincenot. Vous voyez, c'était bien 75 ou 76. Voilà, donc, j'ai appris que une pièce de vin fait 228 litres et tout l'argent était pour les flocons blancs, ou enfin une association pour enfants handicapés de Lino Ventura.
Oui.
C'était formidable.
Ah oui, c'est vrai qu'il avait une enfant handicapée, je m'en souviens très bien.
Et voilà. Oui. Donc, pour vous dire qu'on peut avoir des médailles, des peines des lettres, comme on dit en Alsace, mais qu'il faut avoir un peu de dérision. Donc, vous, vous êtes maître tofu.
Oui, mais ça se mérite d'être maître tofu, déjà, et je suis assez...
On va à la fac pour apprendre à être maître tofu?
Alors, on ne va pas à la fac.
C'est pas un master 2, ça,
non. Non. C'est un métier qui s'apprend de manière, sur le tas, je dirais. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation au Japon lors d'un premier voyage. Ensuite, une seconde formation, parce qu'on est d'abord tofu junior. C'est comme ça qu'il... Oui, je sais.
Alors
il faut bien débuter quelque part.
Moi, je suis maître tofu junior.
Et ensuite, quand on a maîtrisé tout l'art du tofu, la fabrication des différents tofus, on devient maître tofu. Et c'est le président de l'association japonaise du tofu qui remet le titre et le diplôme.
D'accord. Voilà. Alors, une petite digression. Un soir, là, vous êtes là, vous avez fermé votre table d'hôte, vous êtes toute seule, tranquille, vous faites quoi, un petit spaghetti bolognaise en vitesse, non? Ou vous mettez de l'eau bouillante sur les pâtes, vous savez, toutes faites?
Ah
là.
Non, jamais.
Ah,
je cuisine.
Ça coûte 80 centimes, vous mettez de l'eau bouillante et ça vous
oui,
calme.
Oui, non, mais ça, c'est bon pour les gamins, non.
Ah non, mais même moi, à 3h du matin, quand j'écris mes bouquins, je me fais une plâtrée de pâtes, comme ça, non, c'est pas
non,
bien.
Non, alors moi, je cuisine tout le temps. Je prends énormément de temps à cuisiner minimum 2-3 fois par jour pour faire des desserts, pour faire plats, pour voilà. Et j'y tiens. D'abord, c'est une sorte de rituel, ça m'apaise. C'est une passion, la cuisine aussi.
Moi, ce qui m'apaise, c'est faire la vaisselle.
Ah, c'est bien. Ben alors, je vais vous inviter parce que quand j'ai 10 personnes, je peux vous dire que j'ai de la vaisselle pendant une journée et demie.
Ah oui.
Donc là, je vais vous inviter.
Moi, j'aime bien. Moi, j'essuie les verres au fond du café.
Ils sont arrivés.
Oui, piaf, exactement. Alors, vous dites cuisine émotionnelle.
Oui.
Ça, c'est un petit peu au-dessus de votre derrière, ça, non? Ça fait un peu prétentieux, ça?
Non, c'est non. En aucun cas
émotionnel.
Émotionnel, mais la cuisine, c'est de l'émotion. Tout est de l'émotion. Toute forme de choses qui nous font plaisir, en tout cas.
Oui.
Et moi, je le ressens comme ça. Ça donne des émotions, parce qu'on ne peut pas être complètement indifférent face à des plats qui nous rappellent des choses, peut-être, notre tendre enfance.
Bah alors voilà, ce sont les souvenirs.
Émotions. Oui, il y a des souvenirs.
Donc c'est le plat que vous faisiez votre grand-mère. Maintenant, les jeunes, ils ne mangent que du Kentucky Fried Chicken et des burgers.
Ouais.
Pas tous, oui.
Pas tous.
Mais, ou alors des pizzas, parce que c'est vite fait, ou vite décongelé. Un des plats préférés, paraît-il, j'avais lu ça, des Alsaciens, c'est le couscous. Voilà,
Oui.
Et oui. Le plat qu'ils aimeraient manger, mais qu'ils ne mangent jamais, parce que justement, ça leur rappelle le plat de la grand-mère qu'on mange le dimanche, c'est la blanquette de veau.
Ah oui, j'adore la blanquette de veau.
Ah oui,
j'en fais régulièrement. Et ma Madeleine de Proust, c'est le riz au lait.
Ah ben voilà. Alors, j'allais vous parler de la Madeleine de Proust. Alors, vous savez comment Proust parle de la Madeleine de Proust?
Mais je vous écoute.
Ah ben, écoutez, alors, c'est le petit gâteau court et dodu qui semble avoir été moulé dans la valve de la rainure d'une coquille Saint-Jacques.
Enfin, ah oui,
je dis ça comme ça de tête. Hein, c'est ça. Alors, on dit la Madeleine, mais lui, il l'a dit autrement. Et alors, vous, donc, votre Madeleine de Proust, c'est quoi? C'est un plat algérien?
Pas du tout, je viens de vous le dire, c'est du riz au lait.
C'est du riz au lait.
Voilà, ma mère nous...
C'est espagnol, ça?
Olé. Non.
Mais non, olé.
Ah oui, d'accord, ok, bon.
Olé, devant
tout à fait. Il y a plusieurs interprétations du riz au lait. Mm-hmm. Quand j'étais gamine, ma mère en faisait beaucoup pour nous. Et ça, c'est l'odeur du lait comme ça qui
alors,
cuit.
Alors, comment ça s'appelait le riz? Alors, c'était le riz au lait. C'était franco-russe. Alors ça, je dis ça aux auditeurs. Non, mais vous êtes trop jeunes pour connaître ça. Dans les années, fin des années 50, début des années 60, on faisait, c'était de la poudre. Il y avait trois parfums, vanille, pistache et, je pense, chocolat. Voilà.
Ah.
On mettait de l'eau chaude dessus, on remuait, ça gélifiait, on versait ça dans des petits bols. Et il y avait du riz un peu tout cuit déjà dedans.
D'accord.
Et ça s'appelait, alors je peux faire de la pub parce qu'à mon avis, ça n'existe plus. C'était les flancs franco-russes.
Ah,
oh là là, alors voilà, je suis sûr que nos auditeurs qui ont mon âge vénérable vont dire « Mais oui, je me souviens !» C'est leur Madeleine de Proust à eux, voilà.
Possible.
Bon, voilà. Alors, je vais vous raconter encore une autre Madeleine de Proust que j'ai. Moi, c'est... Alors, vous allez me dire si c'est un bon plat ou pas. C'est la salade de pissenlit avec un œuf au plat et des lardons.
J'adore.
Ça vous dit?
Ah,
alors,
oui.
Alors, ça, c'était mon oncle Léon.
Ça, j'adore.
Dans les Vosges, du côté de mon papa. Et l'été, on nous expédiait là-bas en vacances. Très bien. Et donc, il fallait travailler et tout, à la ferme et tout. Mais je sais pas, j'avais 8-9 ans. Et je me souviens qu'il portait d'énormes meules de paille sur la tête. Et la tante Georgette nous envoyait chercher les pissenlits pour le repas du soir. Parce qu'à l'époque, on mangeait tous les jours la même chose. Normal. Et... les pissenlits, en plein mois d'août, en plein soleil, ils étaient jaunes, voilà, et tout. Donc, elle nous avait donné le truc, comment avoir des bons pissenlits bien frais. Eh bien, il fallait les chercher sous les bouses des vaches qui étaient dans les prés.
Très bien.
Et donc, moi, avec mes petites mains d'enfant innocent, à 9 ans, il fallait soulever la bouse de vache pour couper... Il ne fallait pas arracher la racine.
Il fallait la couper, oui.
Couper le pissenlit, ensuite le laver dans la fontaine d'eau froide glacée qui vous brûlait. Et le soir, vous mangiez votre pissenlit avec votre œuf au plat et les lardons en pensant à la bouse de vache que vous aviez soulevée. Je vais vous dire que... Bon, mais c'est aussi une Madeleine de Proust.
Bah oui,
voilà.
Tout à fait.
Voilà. Alors, votre table d'hôte, il y a une dizaine de personnes, c'est ça ?
Oui, maximum 10.
Voilà. Et alors, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui ont réservé sur Internet, je suppose ou...
Alors, pas forcément, parce qu'en fait, ma table se connaît plus de bouche à oreille que par Internet, bien que j'ai des sites et je suis sur tous les réseaux. Mais c'est des gens qui ont déjà vécu l'expérience, qui en parlent et ils s'adressent à moi par la suite.
C'est le bouche à oreille.
Exactement. Ça marche beaucoup plus comme ça.
Voilà, d'accord. Et alors, c'est des gens quand même qui ne se connaissent pas aussi, quand même un peu.
Alors, non, il arrive qu'ils ne se connaissent pas du tout, en effet. Mais il arrive aussi qu'il y ait la moitié du groupe. Je dirais que 5 personnes se connaissent et que les 5 autres se connaissent aussi. Donc, ça fait 2 groupes en un.
Alors, les gens sympathisent tout de suite.
Exactement, puisque... ils sympathisent tout de suite.
Ça arrive qu'ils se fassent.
Jamais.
Non. Jamais.
Alors là, franchement, je suis... Non, mais moi-même, je suis épatée. Je me dis que j'ai quand même certainement créé un climat qui fait que bah, tout se passe super bien.
Et alors, vous commencez à 7h du soir, à 7h ou 8h, enfin, une heure normale.
Le dîner, vous voulez dire ?
Oui, le dîner.
Oui, oui, tout à fait. Il débute vers 19h, 19h30. Tout
et
dépend.
Il finit à minuit.
Souvent, il finit à minuit parce que personne n'a envie de partir après.
Ah voilà. Around Midnight.
Yep.
De Thelonious Monk. Oui,
oui vous, ça se passe un peu comme ça.
Vous mettez de la musique aussi ?
Alors non, on ne met pas de musique.
Non, comme ça les gens peuvent se parler.
Voilà, parce que sinon on ne peut pas communiquer. Déjà 10 personnes, c'est déjà pas mal, je trouve. Il faut vraiment qu'il y ait un échange. Et puis comme ça, on respecte les temps des plats qui sont servis les uns après les autres. Il y a des discussions sur les vins, les sakés, etc.
Alors, je repense à Round Midnight. Alors, c'est aussi un film de Tavernier, de Clint Eastwood et Thelonious Monk. Je me souviens que c'était en si bémol mineur. Et Stan Getz l'a repris et Miles Davis. Alors là, je fais un peu le malin.
J'adore Miles Davis.
Oui, oui. Parce qu'on a un collègue ici à la Radio Judaïque à Strasbourg qui s'appelle David et qui est un fanatique de jazz et qui est formidable. Donc s'il écoute l'émission, il va dire « Ah, Ambroise, hein, toi, bravo hein. !» Voilà. Alors, vous êtes aussi une artiste du saké, hein, vous l'avez dit plusieurs fois. Alors moi j'adore le goût du saké à cause du film d'Ozu, bien sûr. Hein, donc, en japonais, d'ailleurs, le film « Le goût du saké », si vous traduisez en japonais, vous parlez le japonais un petit peu ?
J'apprends, j'apprends. Je connais le langage.
Le goût du poisson.
Oui.
Voilà. Hein. Et c'est le dernier film hein, d'Ozu, il en a fait 200. C'est un truc complètement... ça fait pleurer, quoi, tellement c'est bien. C'est la fille qui est ses
parents.
C'est
très, très joli.
C'est très beau. Ouais. Mais alors, le saké... C'est un alcool japonais.
Oui.
Vous l'avez découvert en allant au Japon ou vous êtes allé au Japon parce que vous buviez du saké ?
Non, en fait, je suis allée au Japon pour la première fois il y a 35 ans exactement.
Oui.
Et on m'a conviée au pied de la Tokyo Tower, donc la tour de Tokyo, dans un restaurant du style étoilé. Et on nous a servi une bouteille de saké sur un lit de glace pour accompagner tout le repas.
Ah, mais moi, je croyais que ça se buvait tiède.
Ah non, ça se boit à toutes les températures de 5 à 50 degrés.
Ah ben voilà.
Voilà, donc déjà, on a le choix. Et puis, on peut réclamer la température qui nous convient.
Alors, vous savez qu'à Orfelden, dans notre bonne Alsace et dans le Bas-Rhin, on fait du whisky.
Oui.
Est-ce qu'on fait du saké aussi en Alsace ?
Alors, on ne fait pas de saké encore en Alsace, mais on fait du saké partout en France.
On fait du... Ah oui ?
Oui.
Parce qu'on fait du schnapps à la framboise. Alors, si on a des auditeurs qui ont des bonnes bouteilles, j'adore le schnapps à la framboise. Mais...
Moi, j'en ai, justement.
Ah bon écoutez, mais vous faites du... On peut faire du saké japonais en France.
Alors, on fait du saké japonais en France, puisqu'il y a au moins, maintenant, pas loin d'une dizaine de brasseurs qui se sont mis à faire du saké français.
Bon.
Alors,
c'est formidable.
C'est formidable.
Et alors, vous êtes aussi poète et vous écrivez des vers.
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'en réciter par cœur de votre production ?
Non.
Non.
Non,
non.
Non.
Non. Alors, comme moi, je prépare bien mes émissions, je vous ai fait 2 petits alexandrins. Bien bu et mangé aujourd'hui à la radio, un menu composé par Lobna Liverneau.
Ah, pas mal.
Voilà. Bon, voilà. Bon, écoutez, c'était l'épisode numéro 162. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg. Lobna Liverneau, sacré cuistot au fourneau. Bon, c'est une rime qui n'est pas brillante. Hein.
Pas mal.
Elle est brûlante. Mais c'est toujours, on dit, une riche rime. Alors là, elle est plutôt pauvre. Alors toujours, ma dernière petite question. Cher chef, 2FE, cher gastronome et artiste, quelle est votre recette de la tarte au fromage alsacienne ?
Ben, pour moi, c'est déjà une pâte brisée à la base.
Oui.
Ensuite, des œufs, du bon fromage blanc bien épais, un petit peu de fécule, du zeste de citron.
De la maïzena, peut-être ?
Oui, c'est ce que j'appelle fécule.
Oui, oui, oui.
Voilà,
oui,
et donc...
Et pas une goutte de fleur d'oranger dedans et
non,
tout
non, moi, non. Je préfère rester au citron,
oui.
Basique.
D'accord.
Voilà, c'est tout.
Vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, nous partons en Géorgie avec une étudiante strasbourgeoise, Mariam Tolordava, et nous dire pourquoi elle adore être... européenne, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.